Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est une fin d'année bien particulière que nous vivons et bien évidemment la lecture fait partie de ces voyages, de ces rêves et de l'évasion. Pour cette fin d'année et pour ce Noël 2021, je suis heureuse de vous offrir, de vous proposer une lecture qui moi, comme d'habitude, depuis 20 ans, m'a ravie parce que l'auteur, c'est une femme que je qualifierais de rare, de gaie, de spontanée. Pour moi, c'est une fée, un petit peu comme son héroïne dont nous allons parler aujourd'hui. Et oui, 20 ans après, nous allons de nouveau parler d'Aliénor, ce best-seller qui a fait les beaux jours de notre belle littérature française et surtout qui nous a permis d'aller à la rencontre d'un bel auteur qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Mireille Calmel.
Bonjour Claudine. Et après tout ce que vous venez de dire, je suis fortement troublée.
Je suis de nouveau ravie de vous recevoir. Je disais 20 ans après, c'est pas Alexandre Dumas, mais c'est Mireille Calmel avec Aliénor d'Aquitaine. Alors, c'est un double plaisir parce que donc le lit d'Aliénor qui a fait le succès depuis 20 ans, plus d'un million d'exemplaires traduits en je ne sais plus combien de langues.
Et puis,
vingtaine de langues. Et puis, il y a une bande dessinée qui illustre l'histoire du lit d'Aliénor. Alors je crois que c'est Philippe Lejeune, c'est ça l'illustrateur ?
Pierre Lejeune,
voilà. Un illustrateur, mais c'est magnifique les dessins qu'il fait, enfin, c'est vraiment très très beau, donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors déjà, avant de reparler du livre, de son histoire, et puis d'Aliénor bien évidemment, comment s'est passée la rencontre, l'idée de lier une BD au lit d'Aliénor?
Alors, pour tout vous dire, ça remonte à 15 ans maintenant. Oui. Et un jour, j'ai reçu un petit paquet par la poste avec des croquis et un petit mot en disant « J'ai adoré votre livre, voilà ce qui en est sorti. Est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble ?» Et j'ai eu un tel coup de cœur parce que brusquement, je me retrouvais devant les visages dont je rêvais depuis que je suis toute petite, quoi. Et je connaissais le travail de Pierre au travers d'autres choses qu'il avait publiées. Mais là, franchement, c'était comme si brusquement j'avais en face de moi le miroir de mes rêves, quoi.
Ouais.
Et donc je l'ai rappelé tout de suite en lui disant mais oui bien sûr.
Ouais.
Sachant que j'avais écrit beaucoup de théâtre, j'avais écrit beaucoup de choses, mais j'avais jamais travaillé dans le milieu de la BD, que j'aime beaucoup.
Oui.
Et après, ça a été un parcours du combattant, parce que Pierre, comme vous l'avez vu, c'est ce qu'on appelle la ligne claire en BD, donc évidemment qu'il a été
très
un
beau.
Peu dépassé par les mangas, par tout ça,
très
par
beau.
Donc lui, il avait fait beaucoup de choses aussi de son côté. En même temps, moi, le succès de mes livres était tel que les grands éditeurs de BD avaient envie de m'associer à une marque, en me disant « Vous êtes une marque, Madame Calmel, nous allons vous associer à une autre marque. »
Ouais.
Moi, je m'en fous d'être une marque, je veux pas être une marque. Moi, une personne de chair et d'os avec des émotions et une sensibilité particulière. Et puis ce livre-là, il est particulier pour moi. C'est pas juste celui qui m'a lancé, c'est celui avec lequel je vis depuis que je suis toute petite.
Bien sûr.
Cette complicité-là avec Pierre, elle est née avant même que je le rencontre.
Mm-hmm.
Donc ça ne pouvait être que lui. Et j'ai mis 15 ans pour qu'on arrive à ce que ce soit lui et pas un autre.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça qu'on a cette collaboration entre XO Éditions et un petit éditeur qui, à un moment donné, a dit « Mais moi aussi, je rêve de publier la BD du lit d'Aliénor depuis des années.
Mm-hmm. »
Voilà comment ça s'est fait, cette histoire.
C'est une belle histoire,
et
en tout cas. C'est un résultat magnifique.
Le résultat est d'autant plus beau, si vous voulez, que vraiment... on a travaillé totalement quand je disais une phrase, il la finissait et vice versa.
Mmh.
Et autant c'est très compliqué de reprendre un livre pour le scénariser en très peu de choses, en fait, parce que la BD, c'est ça, c'est beaucoup d'images et peu de textes.
Mais
il fallait tout dire de la même manière, avec la même intensité. Et puis, pour moi, c'était que ça sorte, si vous voulez, vraiment, parce que le timing est assez extraordinaire, parce que je vous dis, le projet date, ça fait 15 ans qu'on est sur le projet, et que là, il soit abouti et qu'il sorte au moment où on fait ce collector que Pierre a illustré, d'ailleurs,
le
collector du lit d'Aliénor est augmenté de 30 illustrations
qui
sous sa plume.
Oui.
C'était vraiment, mais vous savez, Voilà, la magie continue avec Aliénor.
C'est vrai, la magie continue. Le rêve, la magie, le merveilleux, j'ai envie de dire, une forme de féerie. Pardon, une forme de féerie comme ça. Alors, eh bien, nous allons reparler d'Aliénor. Alors, elle a une histoire assez extraordinaire. Ça a été une femme hors du commun, deux fois reine. Et puis surtout, elle a vécu très longtemps parce qu'elle est née en 1122 à peu près. Et elle serait morte entre fin mars et début avril 1204, soit 78 ans. Qui,
ah ben oui,
à cette époque, parce que quand on regarde l'âge de la mort de ses maris, de son premier mari, Henri II, il est mort en 1189, son premier mari, il avait un peu plus de 40 ans, et alors on parle même pas de ce second mari qui avait 15 ans, il a vécu 15 ans.
Ah oui, non,
c'est incroyable.
C'est exceptionnel. Je vais même tout pour aller. Bon, je vous dévoile quelques petites choses. Moi, elle me poursuivre vraiment parce que j'ai quitté la région de Blaye, alors qui évidemment la région dans laquelle je me suis installée il y a presque 40 ans maintenant. Je suis partie dans le Médoc. Et puisque mon mari avait un petit terrain là-bas, et puis on s'est installé pas très loin d'océan. Et figurez-vous que dans la commune où je suis, allez, pour tout vous dire, à 300 mètres de la maison où j'habite, il y a la pierre sur laquelle elle a accouché.
Oh, incroyable. C'est incroyable.
C'est-à-dire qu'Aliénor prête et l'ancien port depuis lequel, enfin c'est vraiment à côté de chez moi, l'ancien port depuis lequel elle a embarqué pour l'Angleterre.
Incroyable.
Donc vraiment, elle est là, quoi.
Et oui, parce
quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert qu'elle était descendue de cheval avant d'aller embarquer juste pour accoucher, et puis qu'elle était remontée sur cheval et qu'elle est allée au port, quoi.
Oui, c'est incroyable.
Vous imaginez, voilà. Donc c'est une femme extraordinaire.
Oui. Elle a été deux fois reine de France, reine d'Angleterre.
Elle a été deux fois reine. Alors, il n'y a pas d'équivalent, si vous voulez. Elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire, parce que d'autres femmes ont été reines, d'autres femmes ont eu une histoire, mais aucune n'a régné aussi longtemps avec autant de présence, autant de prestance, avec autant de féminité.
Surtout à cette époque, hein.
Surtout à cette époque. Et puis surtout avec cette conscience européenne qui est très particulière à Aliénor, puisqu'elle a quand même fait en sorte de placer tous ses enfants en Europe de manière à faire quelque chose qui était insensé à l'époque, de manière à amener toute cette belle énergie propulsée par les troubadours, avec la fine amour, avec pouvoir élever le statut de la femme dans tous les pays européens. Et ça, c'est personne n'a fait ça.
Il faut rappeler que c'est la mère de Richard Cœur de Lion.
C'est la mère de Richard de Jean Santerre,
d'Éléonore d'Angleterre et d'Alix de France. Oui. Donc, c'est incroyable.
Elle a un parcours exceptionnel dans l'histoire, une énergie. À presque 80 ans, elle est partie chercher sa petite fille, elle a traversé les Pyrénées, elle est allée récupérer sa petite fille Blanche Castille pour la ramener au roi de France. Trois ans avant, elle avait tout traversé les Alpes et toute l'Italie à cheval pour aller amener sa femme à Richard, enfin, en Sicile. C'est des choses qu'on n'imaginerait même pas aujourd'hui.
C'est vrai.
Voilà, dans la neige, dans le froid. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et pour lequel, vous l'avez entendu, vous savez, depuis 20 ans, un amour inconsidéré. Voilà. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'autant plus troublant pour moi que elle est avec moi depuis que je suis toute petite, sa dame de compagnie aussi, Loana Grimwald. Et c'est d'autant plus troublant pour moi que, on parlait de la BD, on parlait du lit d'Aliénor, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, mon fils, Anaël Train, a écrit le préquel de cette histoire, au même âge que moi, quand j'ai écrit le lit d'Aliénor, et il est publié aujourd'hui au même âge que moi, avec son livre qui s'appelle Le Serment de Geoffrey, et qui est le préquel du lit d'Aliénor. Donc c'est comme si vous savez, cette espèce de boucle qui 20 ans après est là et qui me fait dire qu'Aliénor n'en a peut-être pas fini avec nous, quoi.
Non, apparemment non. Mais c'est d'autant plus surprenant qu'à une époque, le livre L'Action commence en 1137. Alors il faut rappeler qu'elle est née à Poitiers, non pas à Fontevraud. Alors elle a été inhumée à Fontevraud, mais elle n'y est pas née.
Alors elle n'est pas, là c'est pareil, il y a un mystère énorme.
Ah, il y a un mystère,
oui. Je peux tout vous révéler. En fait, si vous voulez, elle serait morte à Poitiers.
Elle aurait été
cercueil aurait disparu entre Poitiers et Montevraud. Parce que Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, la reine d'Angleterre a acheté de manière emphytéotique l'emplacement des tombeaux dans l'abbaye.
Mmh.
Et du coup, elle a voulu, ils ont ouvert ils sont allés regarder ce qu'il y avait dessous. Hein,
ouais.
sous. Et en fait, il n'y a rien dessous. Donc le cercueil d'Aliénor n'a pas été retrouvé. Mmh. Et elle a lancé une prime de 100, enfin plus d'un million de livres sterling à qui retrouverait le tombeau d'Aliénor. Et je peux le dire, cette prime court toujours. Donc si dans votre jardin vous découvrez un sarcophage en or massif, c'est peut-être celui d'Aliénor.
Bien écoutez, j'ai pas prévu de faire des fouilles dans mon jardin, mais le Gâtinais c'est un petit peu loin, mais enfin on sait jamais. Tout est possible. Donc
bon,
voilà.
Il a été fondu entre les deux, à mon avis. Ils ont récupéré le cercueil, ils ont mis Aliénor quelque part.
Mais... Ouais. Mais alors, donc il y a quoi? Il y a un gisant à Fontevraud?
Il y a un gisant, il y a deux gisants.
Ouais, ouais,
il y a
ça.
Plusieurs gisants de,
ouais.
De la famille Plantagenet. Ouais.
Alors, 1137, hein, on dit c'est le 12e siècle. À l'Aquitaine, c'est une région immense, convoitée, bien évidemment.
Très convoitée parce que très riche.
Et donc elle est plus ou moins promise au roi de France. Mais il y a Loana de Grimoald. Je n'y arrive jamais. Je dis Woodward, Widmark, mais jamais le bon nom, jamais.
Alors Loana de Grimoald, moi j'ai pensé longtemps que c'était un personnage imaginaire, jusqu'à ce que je retrouve sa trace aux Archives nationales grâce à Régine Pernoud d'ailleurs.
Oui.
Et que je découvre qu'elle avait été l'épouse du seigneur de Blaye, de Geoffrey Rudel, le fameux troubadour Geoffrey Rudel, très prisé de la cour d'Aliénor. Et que
elle a fait partie de ce qu'on disait à l'époque de l'entourage, des femmes d'entourage d'Aliénor.
Voilà, elle a été une de ces dames d'atour. Les historiens s'accordent à le dire. Et il est probable que déjà, il y a eu au moment du mariage d'Aliénor avec Louis de France, il est probable qu'il y ait eu des négociations pour faire échouer ce mariage et pour qu'elle puisse être ramenée à Henri Plantagenet, puisque bon, il y avait une guerre de succession en Angleterre et tout le monde, comme vous l'avez dit, convoitait le duché d'Aquitaine. Oui. C'était vraiment.
Alors les Templiers aussi, qui étaient tout au début de leur bonne fortune,
ont convoité
cette région.
Les Templiers convoitaient des terres étaient les alliés du roi de France et de celui qui avait usurpé le trône d'Angleterre à ce moment-là, qui était Étienne de Gore. Donc du coup, c'est une espèce d'alliance un peu particulière. Et Aliénor était l'enjeu de tout. Était un enjeu énorme parce que, effectivement, qui mettait la main sur la demoiselle mettait la main sur le duché. Alors, il faut s'imaginer que le duché d'Aquitaine, c'était celui qu'on connaît aujourd'hui, grâce au rassemblement des régions, plus élevé encore, plus étendu encore. Donc, c'était vraiment un empire, j'allais dire presque un des plus importants duchés, pour ne pas dire le plus important duché, de ce qui est aujourd'hui la France. Alors, vous imaginez qu'une fois qu'on le rajoute à l'Angleterre et à toutes les terres qui étaient liées à l'Angleterre, c'est-à-dire l'Anjou, la Bretagne, la Normandie, le Maine, tout ça faisait un espèce de royaume qui était plus important que celui du roi de France lui-même. Donc, tout le monde avait intérêt à récupérer l'Aquitaine.
Et à Aliénor et à convoler avec elle. Alors aussi, ce qui est assez surprenant, et je crois que je me suis posé la question il y a 20 ans et peut-être encore aujourd'hui, aller à une époque où on navrait les gens, parce qu'aujourd'hui on dit je suis navré, mais c'est je suis désolé, mais en fait 12e, 13e, 14e siècle, c'est on navrait, on tuait les gens, comme quoi le mot a été détourné, comme beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui, mais est-ce qu'on sait si elle a quand même eu affaire à des tentatives d'oxyre ou d'être navrée? Est-ce qu'on a forcément voulu se débarrasser d'elle quand même? Elle était gênante.
Elle était gênante, mais...
Puissante.
Son mari l'a emprisonnée pendant longtemps. Hein, Henri Plantagenet l'a emprisonnée pendant longtemps. Ça ne se passe pas dans l'île d'Aliénor, ça se passe dans la suite que j'ai
dans
écrite.
La suite, tout à fait.
Il y a plusieurs volumes.
Tout à fait.
Il l'a incarcérée pendant un certain temps.
Mais elle n'a jamais été enherbée, comme ils disent à l'époque.
Elle n'a jamais été enherbée, non. Ou alors, si on a essayé... On pense qu'il a essayé de la tuer avec la naissance de Jean.
Jean Santerre.
Jean Santerre, avec la complicité de sa maîtresse de l'époque, de Rosamond Clifford.
Oui.
Vous savez, la grossesse de trop qui allait tuer Aliénor.
Oui. Oui.
Puisqu'elle avait plus de 40 ans, hein, faut pas oublier qu'elle avait beaucoup plus de 40 ans quand elle a donné naissance
à
son dernier enfant.
Et à l'époque, c'était beaucoup.
Ah bah, à 60 ans. Le risque de mourir en couche était énorme.
Bien
alors,
sûr.
En plus, passer 40
sûr.
Ans, c'était. Oui. Voilà. J'allais dire, il y avait 8 femmes sur 10 qui n'y arrivaient pas.
Malgré les matrones et les ventrières.
Voilà. Donc, du coup, à cet âge-là, c'était presque l'enfant de trop. Et apparemment, Jean freinait de manière un peu particulière. Chose que je raconte dans la suite, où elle aurait déjoué un petit peu tous ces plans-là en disant non, je suis toujours là et j'y reste. Moi je continue à l'aimer très très fort.
Il faut parce que ce qui est intéressant aussi dans la vie d'Alinor, c'est aussi ses enfants. Parce que ils ont eu des destins et notamment ce cher Richard Cœur de Lion, qui a fait aussi de beaux livres, de belles histoires, aussi bien de beaux films aussi bien
Chevalier
évidemment.
Chevalier,
voilà. Mais aussi ces enfants ont eu pour certains des destins aussi assez incroyables aussi.
Oui, tous.
Tous,
ils ont tous eu parce que sa fille en Sicile.
Oui. L'une en Angleterre.
Une en Angleterre. Elle a été très amoureuse du roi avec lequel elle était mariée. Quand il est mort, elle a été emprisonnée aussi. C'est Richard qui est parti la délivrer. Enfin, il y a eu vraiment. On l'a promise à Saladin et finalement ça s'est pas fait. Enfin, voilà. Je crois que
Saladin, avec qui les Templiers avaient fait quelques protocoles qui n'ont pas forcément été respectés par Saladin. Enfin, ça c'est une autre histoire.
Tout ça c'est une autre histoire. Effectivement. Mais bon, voilà. Vous savez que j'en ai plein dans mes tiroirs, hein, donc.
Bah écoutez, allez-y, parce que moi, vous savez l'histoire, vous savez, je suis une passionnée. Grâce à vous, j'ai découvert le 12e siècle, grâce à vous et à Aliénor. Et puis, depuis peu, je me suis lancée dans le 13e et 14e. Donc là, voilà, moi, ça me passionne parce que c'est notre histoire, c'est notre ADN, ce que nous sommes aujourd'hui, même si les pestes diverses et variées ont décimé beaucoup l'Europe entre le 13e et 15e siècle, on a forcément des ancêtres à ces moments-là, de toute façon.
Oui, moi je continue à penser qu'il faut pas oublier le passé, qu'il faut continuer à l'enseigner de manière c'est aussi pour ça que je me suis d'ailleurs tournée vers une autre forme d'édition, puisque maintenant j'ai écrit deux vrais romans pour les enfants à partir de 8 ans.
Ça c'est bien.
En collaboration avec Ixo et Belin.
Ah oui. Belin avec Amandine Dumas.
Mais du coup j'ai travaillé et je fais exactement ce que je fais pour les grands mais avec les petits.
Ah mais c'est bien ça.
Illustré. Donc le premier s'appelle Le Secret de Léonard et
ça m'intéresse.
Il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Mystère au théâtre.
Ouh, ça m'intéresse.
Pour les 8-10 ans. Bon. Et donc dans le deuxième qui vient juste de sortir, je vous emmène avec les enfants de Lully, la fille de Molière et le fils de La Fontaine, vous voyez,
dans les coulisses
du théâtre pendant une représentation de Molière. Et ce sont des petits polars.
C'est bien ça.
Pour justement les amener à, et le premier dans Le Secret de Léonard, il y a un personnage qui s'appelle Marignan pour expliquer comment, pourquoi, et on part à la recherche. Donc ce sont des intrigues pour les enfants parce que je considère que justement il ne faut pas oublier.
Et non.
Il ne faut pas oublier notre histoire parce qu'on a vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Avec cette histoire de coronavirus, avec tout ça, on l'a déjà vécu, mais de manière beaucoup plus grave.
Ah oui.
Et avec des moyens qui, finalement, sont à peu près les mêmes qu'au Moyen-Âge.
Si vous regardez la grande peste 1346-1353, qui a décimé sur 17 millions de Français, écoutez bien, chers auditrices, auditeurs, 17 millions de Français, nous étions à l'époque, 7 millions sont morts. 100 millions, alors à travers l'Europe, on n'était pas nombreux, mais à peu près 50% de l'Europe. L'Islande, où la peste est arrivée 50 ans plus tard, c'est-à-dire donc vers 1400, la moitié de la population islandaise a été décimée. Donc voilà, c'est
mais,
après...
Mais sans aller si loin, vous savez, moi l'année dernière, j'ai été contaminée par la tuberculose.
Oui. Et Madagascar, il y a quelques années, il y a eu la peste, il y a quelques années à Madagascar.
Et aujourd'hui, la tuberculose tue dans le monde beaucoup plus de gens que n'a tué le Covid jusqu'à maintenant, chaque année, et malgré les traitements, et malgré tout ça, et j'oserais presque dire qu'on ne nous en fait pas tout un plat.
C'est vrai, mais le virus, ça tue aussi, et puis ça fait peur, c'est vrai que...
Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sortir de cette peur, justement à l'heure où maintenant, il faut faire attention et être de plus en plus vigilant. Et mmh. Je vous le dis à tous, hein, mes chers, très, 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 très chers lecteurs, prenez soin de vous, faites attention les uns aux autres et surtout pratiquez les gestes barrières, parce que vous le savez aujourd'hui, on le répète sur tous les
Et la vaccination, partout, si vous le souhaitez.
La vaccination ne suffit pas. Et dans certains cas même, elle n'est pas indiquée. Voilà, donc soyez vigilants.
Disons qu'elle protège, elle protège quand même, elle protège quand même, malgré tout.
Donc soyez tous vigilants. Voilà.
Alors, petite question que je me suis posée, est-ce que le livre là pour ses 20 ans a été un peu remanié ?
Alors, il n'a pas été remanié, c'est bien, c'est mais par que... contre, j'ai réintroduit une scène qu'on avait coupée il y a 20 ans, une scène que j'aimais beaucoup, qui n'apportait rien de particulier à l'histoire, et c'est pour ça qu'on l'avait enlevée, puisqu'à l'époque, je n'étais pas du tout connue, et mon éditeur m'avait dit, c'est deux tomes, c'est deux gros tomes, il faudrait en faire qu'un seul, donc ce qui n'est pas indispensable, on peut l'enlever, et voilà, et effectivement, on avait fait des coupes sombres, dans le... on avait enlevé presque 250 pages à l'époque. Donc je n'avais regretté absolument rien de ce qui avait été enlevé, parce qu'effectivement, c'était, c'était une manière de fluidifier un peu l'histoire. Par contre, cette scène, moi, je la regrettais, puisque c'était la rencontre entre Merlin, Louis de Merlin et Bernard de Clairvaux.
Avec Saint-Bernard de Clairvaux,
Donc c'était une scène qui me touchait beaucoup et que j'avais beaucoup, qui était un petit peu en regret dans mon cœur et dans ma tête. Et du coup, on l'a réintroduite dans ce collector. Donc on et on a remis aussi la préface que j'avais écrite à l'époque, au moment où j'ai envoyé le livre aux éditeurs. Voilà, donc du coup, ça a été, c'est vraiment une édition augmentée, je vous dis, qui a un petit plus pour mes lecteurs. Et il faut savoir aussi qu'elle est en tirage limité. Donc, évidemment, comme tout collecteur qui se respecte.
Bien sûr.
Donc, si c'est un cadeau à vous faire, faites-le, il prendra peut-être de la valeur le jour où je ne serai plus là.
cela dit, on n'est pas pressé. Voilà, on va continuer.
Je peux vous dire que j'ai encore beaucoup de belles histoires à vous raconter.
Alors, justement, pour allécher nos auditrices et auditeurs à quelques jours de Noël, Mireille, et de manière à ce qu'ils passent un moment, qu'ils fassent aussi le beau cadeau, donc le Lidalienor avec la BD. Mais quelles sont nos prochaines aventures avec vous ? Dites-nous.
Alors les prochaines, parce que quand je dis les prochaines, ce sont vraiment les prochaines.
C'est pour ça que je dis les prochaines. Je vous connais.
Pour ceux qui n'en connaissent pas le Bal des Louves, Édition a sorti juste là, il n'y a pas très longtemps, un collector aussi en format, une très belle collection qui est à petit prix chez eux, qui s'appelle Cléa.
Chez
XO. Et donc, ils ont réédité le Bal des Loups avec un très beau papier et un prix qui est entre, qui est à 15 euros à peu près. Donc, vous voyez, entre le poche et le. Et les deux tomes sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment.
Ça peut être sympa. Peut être sympa.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Bal des Loups, c'est l'occasion ou jamais. La couverture est très belle. Enfin, ils ont fait vraiment un super boulot.
D'accord.
Pour les petits, il y a le mystère au théâtre et le secret de Léonard qui viennent de sortir aussi.
Ça m'intéresse, oui. Et puis les auditrices, auditeurs aussi, pour leurs petits-enfants.
Pour vous, mes chères lectrices et lecteurs impatients, je vous réserve une très belle histoire au mois de mai. Elle fait un petit peu à avril-mai pour la fête des mères, comme je fais chaque année.
Oui.
Parce que ça fait, là aussi, c'est une personnage qui me hante depuis très longtemps. Donc je vais vous raconter par ses mots à elle et par sa voix, l'histoire de Jeanne de Belleville, dame de Clisson, qui par amour est devenue la pire ennemie du roi de France.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc ça. Ce sera pour le printemps. Aliénor, donc on va la retrouver avec votre fils.
Le deuxième tome de la BD, vous l'aurez normalement à l'automne.
D'accord.
Mais pas que, parce que ça aussi, ça sera. On va essayer de sortir un tome à peu près entre 9 et 12 mois à chaque fois, parce que c'est quand même. Il faut savoir qu'une planche de BD, de dessin.
Il y aura combien de tomes de la BD ?
Il y en a 8 normalement de prévu.
D'accord.
Et il faut savoir que ça représente 50 heures de travail par semaine au dessinateur et toute l'année. C'est
donc ça fait 8 ans. Ça va être étalé sur 8 ans ?
À peu près, oui.
D'accord, ok.
Et donc, il y aura le deuxième tome donc, de la BD, et vous aurez aussi le début d'une série tout public. Voilà, c'est-à-dire à partir de 12 ans, sans problème, où je revisite complètement la légende arthurienne à partir du personnage de Morgane.
Chaque livre
vous amènera à découvrir un des chevaliers de la table ronde.
J'adore.
On sera en Bretagne. Ça va se passer essentiellement en Bretagne.
Ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup, ça.
Et là, vous allez découvrir petit à petit, Morgane va ramener Arthur dans chaque livre. un des personnages de la table ronde, avec il y a un fil rouge évidemment dans chaque livre, mais ils pourront se lire de manière totalement indépendante les uns des autres. Voilà.
D'accord. Eh ben, dites donc, ça fait de
belles
choses.
Donc là, vous aurez
choses.
Les deux premiers tomes pour Noël.
Donc Noël 2022. Bah écoutez, voilà.
Pour 2022. Bah, voilà. Ça s'appellera Morgane des Brumes.
Bah, voilà. Déjà pour le Noël 2021, marchons pas un pas parce qu'en ces temps incertains. Pas à pas, jour après jour.
Voilà.
Moi, je recommande aux auditrices, auditeurs, si vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir, parce que vraiment, le livre d'Aliénor, c'est un collecteur avec des illustrations, plus le premier tome de la BD, hein, qui va pas à pas sur le livre.
Et j'ai envie de rajouter, si vous voulez vraiment commencer au début de l'histoire, commencez par le préquel.
Par le, oui,
fils,
oui.
Qui s'appelle Le Serment de Geoffrey, je le
voilà,
rappelle.
Voilà.
L'édition du 123, puisque.
Par le fils
aussi,
de notre.
C'est tout ce qui se passe 15 ans avant le lit d'Aliénor et qui amène le lit d'Aliénor. Voilà.
D'accord. Bien, écoutez, ben, si on nous le doute, j'essaierai de recevoir votre fils. Comme ça, ça fera la boucle sera bouclée. On continuera l'aventure de mère en fils. Ce sera parfait.
Pense, oui. Puis je pense qu'il va faire parler de lui dans les années qui viennent. Hein. Il a une très, très belle plume, ce garçon.
Bon.
Il m'a bluffé. Vraiment, il m'a bluffé.
Oui, oui. Là, en toute objectivité, en tant que mère, c'est la mère ou c'est l'écrivain
pas, non, il suffit d'aller voir sur sa page Facebook,
oui.
Annel Train Roman, et vous allez voir le nombre de commentaires de mes lecteurs qui ont déjà craqué pour sa plume.
Oui.
C'est assez impressionnant et vraiment, il n'a pas bluffé que la maman.
Bon.
Vraiment.
Ben, je vous crois sur parole. En tout cas, ça a été de nouveau une fête, pour moi un plaisir, une réjouissance de vous recevoir parce que, voilà, on se connaît depuis longtemps. Alors, on va dire aux auditrices, auditeurs, on ne s'est jamais vu, mais c'est comme une évidence. C'est
exactement ça. Mais j'espère qu'on se verra,
oui.
qu'on se rencontrera. Et
oui.
puis moi, ben, c'est vrai que, alors, pour tout vous dire, chers auditeurs, je ne fais partie des gens qui ne peuvent pas être vaccinés. Donc la vie va devenir très compliquée pour moi dans les mois qui viennent, puisque j'ai eu le Covid. Donc maintenant, j'ai un pass sanitaire pour encore quelques mois, mais après, je ne sais pas.
Mmh.
Donc je ne vais plus pouvoir venir à votre rencontre comme je le faisais autrefois.
Mmh.
Si évidemment, les choses sont toujours aussi compliquées dans
Bien
les
sûr.
Mois qui viennent.
Mmh.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours m'écrire via mon mail, kamelofficiel@gmail.com. Vous pouvez... Évitez Messenger parce que je reçois 200, 300 mails par jour, messages par jour par Messenger. C'est plus compliqué pour moi.
J'imagine.
Mais écrivez-moi sur mon mail. Je vous réponds personnellement.
Eh ben, nul doute que les auditrices, auditeurs de ces deux ailes vous auront entendu.
Ma chère Mireille, vraiment votre amie de papier.
Ma chère Mireille, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Merci encore de votre fidélité et de votre confiance, toujours renouvelée depuis ces 20 ans. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt, l'année prochaine. En tout cas, prenez soin de vous. Et merci de...
Et tout pareil, prenez soin de vous tous et je vous embrasse très, 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 très fort.
Moi aussi, je vous embrasse aussi, Mireille. Merci. Quant à nous, je vous souhaite à toutes et tous un très bon Noël en famille. J'espère que vous pourrez vous réunir et surtout, prenez soin de vous. Sachez qu'on peut être ensemble en se protégeant et en protégeant les autres. En tout cas, faites de ce Noël un Noël en toute simplicité, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Au nom de l'équipe de C2L et pour délivrez-vous, joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Sitting by the fire's cozy glow, he don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Thank you.
weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The
fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.
Long as you love me so, let it snow,